d'un autre élève. Alors, peut-être dans le même esprit, page 22, tu parles du Front populaire. Tu l'as dit un tout petit peu, mais
oui.
C'est la, nous sommes donc fin 1936.
Oui, on peut passer à la guerre d'Espagne.
Et la guerre d'Espagne, page 23, oui.
La guerre d'Espagne entraîne un afflux de réfugiés à Bordeaux. J'entends très tôt parler et chanter en basque et en espagnol. Je suis bercé dans ces langues. Mon premier grand amour viendra de là, dans 14 ans, une touche de destin, allons-y. Je fais grève à ma manière en étant malade aussi souvent que possible. Je me laisse soigner et porter, je dois avoir le sentiment confus que de grands désordres se préparent. Ce joyau va pratiquer l'absence systématique. Il sera déserteur, caché, introuvable. Pas de poteau, mon joyau. Donc la guerre. D'autres réfugiés arrivent du Nord. Des Belges et Hollandais. Ils couchent une nuit ou deux dans les garages. Et puis, bruit de bottes, chants gutturaux. Les Allemands occupent la ville et réquisitionnent le bas des maisons. Que viennent faire chez nous ces barbares? Pourquoi cette invasion du diable? Pourquoi ce bruit, cette peur, cette fureur? Un colonel autrichien, civilisé, moindre mal, occupe le salon et la bibliothèque. Qu'à cela ne tienne, on vivra dans les étages, on ira se calfeutrer dans les greniers, pour écouter Radio Londres, malgré le brouillard. Si ça ne vous ennuie pas, c'est une des expériences que je crois les plus fondamentales de ma vie, c'est l'écoute entre 6 et 8 ans de Radio Londres, sous forme de cette radio qui était brouillon. On en reparle aujourd'hui, comme on n'en a jamais parlé, et on n'en parlera jamais assez. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a donné l'idée de la poésie elle-même, très tôt. N'oubliez pas que les gens de Londres, on les appelle des dissidents, la presse de l'époque est pleine de ça, des dissidents, c'est un beau mot qui a servi beaucoup par la suite, et même des terroristes, voire même des traîtres. Oh, c'est bon d'écouter des dissidents, des terroristes, des traîtres, qui vous parlent depuis Londres, les Français parlent aux Français. Je vous demande simplement d'imaginer ce qu'a eu comme pouvoir émotionnel et verbal ces messages personnels qui devaient entraîner, bien sûr, soit une fuite précipitée, soit l'explosion d'un pont ou d'un train, soit un assassinat ciblé. Ce sont des terroristes qui parlent un drôle de langage, qui pour moi était une révélation. J'écoute ça très attentivement. Voici quelques messages personnels. Et je vais répéter parce que c'est très beau, il faut répéter. Vous entendez le brouillage de la radio. Il y avait un humoriste génial qui était engagé, aujourd'hui on les renvoie, qui s'appelait Pierre Dac, qui a fait beaucoup de... Oui, un humour est aussi une arme. Alors, voici. Voici quelques messages personnels. Le renard aime les raisins. Je répète, le renard aime les raisins. Croissez, roseaux, bruissez, feuillage. Je répète. Croissez, roseaux, bruissez, feuillage. Je porterai l'églantine. Je répète, je porterai l'églantine. Je n'entends plus ta voix. Je répète, je n'entends plus ta voix. Je cherche des trèfles à quatre feuilles. Je répète, je cherche des trèfles à quatre feuilles. On dirait que c'est écrit sur mon bras. L'acide rougit le tournesol. Je répète. L'acide rougit le tournesol. Les dés sont sur le tapis. Je répète, les dés sont sur le tapis. Enfin, un des plus beaux. Les colimaçons cabriolent. Je répète, les colimaçons cabriolent. Son costume est couleur billard. Je répète, son costume est couleur billard. Nous nous roulerons sur le gazon. C'est beau. Nous nous roulerons sur le gazon. Bon, je répète. Les reproches glissent sur la carapace de l'indifférence. Je répète, les reproches glissent sur la carapace de l'indifférence, comme c'est beau. Et ça, c'est encore plus étonnant. Véronèse était un peintre. Je répète, Véronèse était un peintre. Le cardinal a bon appétit. Je répète, le cardinal a bon appétit. Celui-là, d'ailleurs, j'aime les femmes en bleu. Je répète, j'aime les femmes en bleu. Rodrigue ne parle que l'espagnol. Je répète, Rodrigue ne parle que l'espagnol. C'est le moment de vider son verre. Je répète, c'est le moment de vider son verre. Le temps efface les sculptures. Je répète, le temps efface les sculptures. Celui-là est magnifique. Elle fait de l'œil avec le pied. Je répète, elle fait de l'œil avec le pied. La brigade du déluge fera son travail. Je répète, la brigade du déluge fera son travail. Ne vous laissez pas tenter par Vénus. Je répète, ne vous laissez pas tenter par Vénus. Ayez un jugement pondéré, je répète, ayez un jugement pondéré. Celui-là qui est merveilleux, Antoine. Saint-Pierre en a marre. Je répète, Saint-Pierre en a marre. Ou alors, le lithographe a des mains violettes. Je répète, le lithographe a des mains violettes. Son récit coule de source, je répète, son récit coule de source, et le dernier, parce que ça pourrait durer comme ça interminablement, parce que c'est des heures tous les jours, les débuts sont contradictoires, je répète, les débuts sont contradictoires. Bon, ça veut dire quoi? C'est que les Allemands essayaient de déchiffrer le code, que c'est un code très précis, et que, si vous voulez une confidence, donc, débutant, le fait que, enfin, nous roulons sur le gazon et j'aime les femmes en bleu parler puissamment à mon imagination. J'ai réalisé ce fantasme. Les femmes en bleu sur le gazon.
Tu as là de la citation aussi qu'on connaît dans d'autres écrits. Mais là,
c'est une question de voix. C'est une question de voix. Si on lit ça sans l'entendre, on ne le lit pas. La question est de savoir que maintenant, tout le monde lit pour voir un film. Alors qu'il faut entendre. J'ai encore reçu un groupe avec la culte américaine, c'est fait pour voir un film de violence ou ça. C'est absolument illisable parce que ça ne peut pas s'entendre. Le français qui ne s'entend pas, que ce soit Antonin Artaud ou Voltaire, n'existe pas. Donc, la privation d'écoute est la chose qui menace absolument. Et c'est pour ça que la radio, là, joue, à mon avis, un rôle, on ne voit rien. Et de quoi s'agit-il?
Alors, justement, à propos de l'écoute et de l'écrit qui n'est pas du film, mais s'entend, il y a deux scènes clés de l'enfance que tu décris, pages 38 et 39. Je sais lire et l'âge de raison.
Absolument. Je vais finir sur la radio, si Dieu veut bien, à savoir que la radio est l'instrument principal de cette période. Je vous l'interviens 67 fois sur Radio Londres. Hein, il aurait disparu pour 40, personne n'aurait su qui c'était. C'est intéressant. On peut suivre ensuite dans le temps la façon dont on a essayé de se débarrasser de lui. 1950, il est au placard. 1960, c'est la guerre d'Algérie, mais les syndicats ont eu des attentats. 1970, c'est la guerre. Il est mort, donc on enterre. Michel fait établir une croix de Lorraine sur une colline à Colombie les deux églises, où il dit, voyez-vous, personne ne la verra, elle incitera peut-être les lapins à la résistance. Oui, d'accord. 80, c'est Mitterrand, il ne faut pas qu'il y ait eu de Gaulle. 90, c'est encore Mitterrand, il ne faut pas qu'il y ait eu de Gaulle. Enfin, Mitterrand se taisait quand il était question de Gaulle, bien sûr, c'est la guerre totale, c'est Vichy. Soutenu par Ambard, avec le journaliste, bon d'accord, Vichy Moscou, concept en acier. Et puis évidemment, alors 90 c'est Chirac, c'est trop lourd à porter, et puis maintenant c'est la déliquescence complète. Voilà. Donc, passons. Et puis on interroge que des survivants, des gens sympathiques, mais à mon avis, mon témoignage, je le dis au Bernardin, n'est pas entendu. J'ai beau parler de mon enfance, de ma jeunesse, c'est pour ça que je suis... Merci. Personne ne m'écoute. On va parler de la guerre d'Algérie, personne ne m'écoute. Ça ne doit pas avoir existé. C'est tout de même étrange. Bon, ça, c'est la même chose pour les femmes, d'ailleurs, ou autre chose. Hein? Il y a des censures dans cette époque. La radio est l'instrument principal de cette période. La voix sénile et chuintante d'un maréchal, propagande de Vichy aux intonations raides et blanches, on peut réécouter ça, c'est hallucinant. L'allemand est aboyé au rez-de-chaussée ou dans les rues, mais de temps en temps, l'occupant autrichien écoute de la musique classique, Schubert sans doute, en se poivrant au cognac. On entend de l'espagnol clandestin, de l'anglais chuchoté, surtout lorsque des aviateurs descendus en vol sont cachés dans les cars. Enfance donc très auditive, d'où au titre à laquelle. On me perd de temps en temps et en plus j'étouffe. Tout est chaotique, souffrant, contradictoire et en un sens profond, merveilleux. Les instructions familiales sont strictes. Si au collège on te demande de chanter Maréchal, nous voilà, tu sors du rang, tu ne chantes pas. Les Anglais, c'est définitif, ont forcément raison. C'est d'ailleurs la banque de famille. Le marquage et la haine des Juifs, une infamie, une honte, la voix du Sud, c'est long, enfin, c'est voix insensée. C'est pas si vieux quand même. Londres, comme Carthage, sera détruite. Laissez nourrir, attention, 3 heures du matin, sirène, canon, bombardement, descendent par les jardins et les caves. Dans les caves. L'Angleterre, très important. Dans ma famille, c'était vraiment, je ne sais même pas si j'ai pensé la chose, les Anglais ont toujours raison. À Bordeaux, il y a une éthère d'occupation anglaise, le prince noir, le Canterbury. Et donc, ça m'est laissé des traces. Les Anglais ont toujours. Vous savez quand même que Churchill a mendié, le mot n'est pas trop fort, le soutien américain, jusqu'à ce que les Japonais aient la bonne idée d'attaquer le Pearl Harbor. Ils ont donné le matériel, et là, après ça, ça a été. Enfin. Churchill, moi j'ai une grande admiration. Il a Westminster, il est là dès l'entrée, un peu plus loin il y a Newton et Handel, ça va.
Bien, on va juste lire et l'âge de raison,
oui.
C'est pas loin de la radio et de ce que tu défends comme écriture, pas hallucinatoire.
Parfait.
Deux
épisodes. Ouais. La scène ici est très précise. On est à la campagne, c'est l'été, j'ai 5 ans. Je suis assis sur un tapis rouge, sombre. Ma mère est à côté de moi et me demande, une fois de plus, de déchiffrer et d'articuler une ligne de livre pour enfants. Le B.A.B.A. quoi ? L'anonage. Il y a des lettres, des consonnes, des voyelles, la bouche, la respiration, la langue, les dents, la voix. Comment ça s'enchaîne ? Voilà le problème. Et puis ça se produit, c'est le déclic. Ça s'ouvre, ça se déroule. Je passe comme si je traversais un fleuve à pied sec. Me voici de l'autre côté du mur du son, sur la rive opposée, à l'air libre. J'entends ma mère dire ces mots magiques, « Eh bien, tu sais lire. » Et là, je me lève, je cours, je sors comme un fou, dans le grand pré aux chevaux, je marche, j'entre dans la forêt en contrebas, en n'arrêtant pas de me répéter, « je sais lire, ivresse totale, partagée, me semble, par les vignes, les pins, les chênes, les oiseaux furtifs. Je sais lire. Autrement dit, sésame, ouvre-toi. Et la caverne au trésor s'ouvre. Je viens de m'emparer de l'arme absolue. Toutes les autres sont illusoires, mortelles, grotesques, limitées, ridicules. L'espace se dispose, le temps m'appartient. Je suis Dieu lui-même. Je suis qui je suis et qui je serai. Naissance, oui, seconde, ou plutôt vraie naissance, seul au monde avec cette clé. Ça pourra se perfectionner à l'usage, mais c'est fait, c'est réalisé, c'est bouclé. Tu tourner le deuxième épisode clé, enfin bon, je vais disposer comme ça. La deuxième scène a lieu le jour de mes 7 ans. On disait à l'époque, 7 ans, c'est l'âge de raison. L'expression « âge de raison » m'intrigue. Il a neigé, le rebord d'une balustrade est fourré de blanc et de gel. J'enlève ma montre, je la pose devant moi, et j'attends que l'âge de raison se manifeste. Évidemment, rien de spécial, aussi, la trotteuse prend tout à coup une dimension gigantesque et éblouissante en tournant dans le givre brillant au soleil. Les secondes n'en finissent pas de sonner silencieusement comme les battements de mon cœur, la raison et le temps lui-même. C'est un grand secret entre lui et moi, inutile d'en parler, je suis fou. C'est mon âge. Je n'ai jamais compris par la suite ce qu'on voulait me dire en me parlant de mon âge.
Ça va dans la suite de ce que je voulais te dire de commenter, c'est page 45. Nul besoin de substances hallucinogènes, je délivre beaucoup.
Nul besoin de substances hallucinogènes, même si j'en ai. Pas mal, hein, un autre moment. Je délire beaucoup, mais la plus forte raison est fondée sur un grand délire. Je rêve en sachant que je rêve. Je suis poreux. Je suis fait de la même étoffe que les rêves. La réalité n'est le plus souvent qu'un autre délire, hélas, collectif. Le jardin, lui, c'est tout. Les deux jardiniers qui viennent à tour de rôle s'appellent René et Ulysse. Si, si, Ulysse, là, dans l'après-midi, brouette, seau, râteau, tuyau d'arrosage, allant et venant puis rentrant dans son appartie. Les garages, les greniers, les cuisines, les caves, c'est là que ça se passe vraiment. Peu à peu, les choses se précisent. Les bibliothèques sont là, mais ils les négligent. Comme c'est curieux, ces volumes reliés jamais ouverts, attendant derrière les vitres, les pianos pour rien, les livres pour personne, et au fond, ces messes et ces communions pour rire, ces curés débiles, ces baptêmes, ces mariages, ces enterrements en passant. Dieu, s'il existe, est bien négligé en ce bas-mot, mais il est peut-être trouvable dans les mots, les notes, la prière personnelle, le temps à perdre, surtout le temps gratuit. Là, je vais ajouter quelque chose à propos des bibliothèques, parce que vraiment, il y avait des livres. Au contraire de Sartre, qui a été entouré de livres, il raconte ça très bien dans les mots, les livres de son grand-père, qui l'ont coupé du monde. Au contraire, le fait, mon expérience d'enfant, c'est que les livres ont projeté. Personne n'en faisait rien. Le grand-père Schweitzer en faisait trop. Ça, c'est ce que Sartre appelle sa névrose. Au passage, la bibliothèque entière se met à parler à mi-voix. Et à travers le temps et l'espace, on capte en direct de larges pans de peinture, de musique, de sculpture, d'architecture. La planète du langage se met à tourner dans toutes les langues et sous toutes les latitudes, avec cet avantage que le français, très curieusement, se révèle être la langue universelle de la traduction, de la transposition et de l'actualisation active. C'est sa propriété la plus propre, d'où l'abondance de mémoire de premier ordre, mais aussi d'une ouverture sans pareil à tous les horizons et à toutes les civilisations. C'est en ce sens précis que le français est universel. Pour cela, il doit éviter la pétrification académique, la limite scolaire et de plus en plus l'autodestruction moderniste. Le système nerveux le plus résistant, c'est-à-dire clair, s'y retrouvera forcément. J'ai constamment été heureux de cette navigation contrastée. À l'époque droguée, j'ai été plutôt loin dans ce sens. Le corps est léger, le déluire afflue de partout, les mots jouent entre eux, les associations se multiplient, les calembours et les coqs à l'âne éblouissants de justesse fleurissent. C'est souvent idiot, mais pénétrant et surtout comique, en relief. On est clown dans la comédie et on est encore clown dans la tragédie. On ne marche plus, on vole, on titube aussi, mais on fait le mur. Le mur du son cède. C'est dangereux de planer au-delà, mais le plaisir est très grand, même si les retombées sont lourdes. À partir de là, encore une fois, il y a très nettement les bons et les méchants, les gracieuses et les grimaçantes. On fait en cours de route quelques erreurs de diagnostic, mais pas longtemps. Le français est langue royale, foutu baragouin tout autour, répète Céline, ce grossier, raffiné, increvable et fabuleux personnage. Au lieu de passer votre temps à déglutir en bon colonisé du traduit de, vous feriez mieux de vous enfermer avec vos classiques. C'est vous qui traduisez tout. Les traductions sont nulles à côté des vôtres. Vous saisissez les choses par l'intérieur. Vous êtes grec, hébreu, latin, sanskrit ou chinois quand ça vous chante. Mais surtout, vous écoutez ceux qui ont respiré, bougé, parlé, souffert et joui dans cette langue. Vous entendez et voyez leur solitude, elles viennent vers vous, elles justifient la vôtre, là, sur le papier.
Là, j'ai l'impression que tu parles de paradis.
Oui, totalement.
Tu veux en dire plus ou...
Non, ça va.
Alors, la guerre d'Algérie.
Alors, ça c'est important aussi, parce que, donc, vous l'avez compris, il y a deux, que j'appelle les deux, non pas placards dans les cadavres, mais les deux, pas les cadavres dans les placards, mais les placards dans les cadavres, donc, évidemment, 1940-1942, évidemment, la guerre d'Algérie, qui était interdite d'appeler guerre, c'était un maintien de l'ordre. Où plusieurs de mes amis ont été estropiés, voire ont été tués. Vous avez là-dessus un témoignage assez tout à fait bouleversant qui reste, celui de Pierre Villotta qui a publié Éden et Éden, qui est descendu là-bas. Toute une génération a fait moi-même passer un certain temps avant de ne pas y passer. Alors, quand je parle de ça, même chose, personne. Quand vous êtes avec un gros placard à cadavre, vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu. Surtout si vous l'avez ouvert avec une clé spéciale. C'est pas bien que vous ayez deviné un certain nombre de secrets sociaux. Alors je parle de l'allié, oui. Mais celui-là aussi. Il est à l'époque de tel quel, dans du avant-garde, pas encore, beaucoup, et le plus installé socialement, il habite chez ses parents, avenue Victor. Il y a là de l'argent, un géricault au mur. Son père, ex-ambassadeur de Vichy pendant la guerre, est un général à la retraite avec des dossiers dans ses tiroirs. Une photo qu'il présente avec François Mitterrand, d'ailleurs, dans la campagne, est assez intéressant.
La cagoule, vous en avez entendu parler? Oh non. Pétanque, vous saviez qui était Pétanque? Et Schuller, vous savez qui c'était Schuller? Et pourquoi il y a tant d'évasion fiscale et tant de secrets qui se perdent dans la nature? Oh non, vous n'êtes pas au courant. Personne ne vous en a jamais parlé, vraiment.
La famille possède un château médiéval en Bretagne. Le général a ses secrets. Et le fils, d'ailleurs généreux, à travers ses délires successifs, invite chez lui des réfractaires notoires. Robe grillée, j'ai connu là, Claude Simon, qui vient se renseigner auprès du général sur la cavalerie française en 1940. Bref, tout un pan des éditions de minuit qu'il faudrait revisiter un peu sérieusement. C'est le moment des 121 contre la guerre d'Algérie, en somme tout ce monde sera anti-gaulliste de base. Ce qui n'est finalement pas ma pente et qui explique pourquoi par la suite Mitterrand, d'abord enthousiaste de Allier, vient le général. Fernand de Grand, c'est un Français, un peu grand. Aura des problèmes de vaudeville avec lui. Le ministre de la Culture aujourd'hui m'a déclaré, qui était présente, que Mitterrand n'était pas content du tout. Enfin, il n'était pas content de ce que j'avais dit de son oncle. Il m'a dit, tu étais là, donc tu peux. Que c'est pas gentil avec son oncle. Et que j'avais, au fond, Mitterrand, François, aurait voulu me séduire, que j'avais donc été réfractaire. Et il ajoute, dis-moi si je me trompe, il ajoute, c'est comme De Gaulle. De Gaulle était fou, amoureux de Bernadotte, il n'a pas réussi à le ranimer. Hein? Donc j'en ai conclu que le neveu, que me parlant de son oncle, me dit que je ne suis pas de Bernadotte du tout, je suis même aux antipodes, donc c'est une erreur sur tout ça, mais que le président Mitterrand était fou d'amour pour moi. Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, elle est son excellence, donc ça vient de tomber. De mon côté, le parfum Vichy m'indispose. Je connais décidément anglais, je me dis. Tant qu'à faire, s'il le faut, pour faire bouger les cadres et déranger les placards, on s'appuiera sur le catisme d'extrême gauche avant de le jeter lui aussi par la fenêtre. Ce sera tout un art et il y faudra du temps. Voilà pour la surface. En réalité, c'est l'expérience intérieure du langage qui me tient, m'entraîne, m'approfondit. On ne choisit pas cette passion, elle s'impose, et ça, à tort, la littérature n'est pas une névrose, mais un chemin de connaissance de plus en plus magique et précis.
Est-ce que tu veux reprendre l'hôpital militaire Montbéliard?
Ah oui, l'hôpital militaire, c'est où ça, 45
oui.
Autour de ah oui, c'est assez drôle.
115.
Oui, oui. Ah oui, ça c'est la façon de faire avec les psychiatres. C'est intéressant aussi comme expérience. Toujours très jeune. Oui. Oui, alors en principe, donc le général Allier doit s'occuper d'obtenir ma réforme parce que là, j'ai confiance et j'ai tort. J'apprendrai par la suite. Ça aussi, je peux le raconter une dizaine, une vingtaine de fois. Personne n'est furieux. J'ai tort. J'apprendrai par la suite que mon dossier militaire est finalement arrivé à la frontière électrifiée avec la Tunisie, région à haut risque où on se faisait tuer comme des mouches. Cette gracieuseté fera exploser mon amitié méfiante, mais pas assez, avec son fils. Étrange. Famille. Disparition du petit Solaire, ce cadeau de revue pour le jeune mythomane, à prétention littéraire de l'avenue Victor Hugo. On peine à le croire, et d'ailleurs je n'ai jamais été cru sur cette question pourtant essentielle de ma biographie. Mes amis ou mes proches pensent que j'ai eu assez de chance et de privilèges comme ça, bourgeois. De quoi me plaindrais-je? Je ne me plains pas, je raconte. Et personne n'écoute. Voilà des rapports sociaux à l'état brut. Je ne vais me sortir de cette misère que de justesse. Arrivé à Montbéliard, dans l'Est, je recommande Montbéliard, dans un camp disciplinaire, mon dossier médical ne suffit pas et j'ai été repéré comme ayant signé une pétition contre la torture en Algérie. Imprudence. J'ai un livre avec moi qui n'inspire aucune confiance aux surveillants locaux. Le Tractacus de Wittgenstein. J'aime la littérature et la poésie, mais aussi, et c'est plus grave, la philosophie. Les recherches logiques de Husserl m'enchantent. L'ego transcendantal, la réduction phénoménologique sont pour moi des sensations tout à fait nettes. Ce goût ne me quittera plus avec des embardés du côté des mystiques. Le camp est situé sur un plateau des Jeux en plein vent. Il fait moins 10 degrés. Je tombe sur la chambrée, c'est tout dire. J'ai déjà remarqué à Paris que les appelés, ayant de très bons dossiers de réforme, ne veulent pas les utiliser, la réforme leur paraissant une honte, l'un par rapport à ses parents, l'autre aux yeux de sa fiancée. La servitude volontaire saute ici aux yeux, pas besoin d'avoir lu la Boétie, mon compatriote, masochisme effarant, logique implacable. Je n'ai connu aucun réfractaire, aucun déserteur. C'est pourtant ma décision immédiate. On entre à l'infirmerie du camp, qu'à partir de 39 degrés 5 de fièvre, comme attacher mes guêtres me gonflent, et que j'en ai plus qu'assez d'entendre chaque soir les désolantes obscénités de mes camarades, je vais donc me lever de ma couchette en douce et me promener pieds nus et torse nus dans la neige, en espérant que la fièvre finira bien par venir. Elle vient. À l'infirmerie, un gradé sentant la supercherie vient me dire que l'armée a droit à 2% de décès par malade, ce qui n'est pas grave, et je jette évidemment les médicaments et la nourriture. Je décline assez vite avec satisfaction la liberté ou la mort, et mes parents, sans nouvelles, finissent par s'inquiéter, surtout ma mère qui, une fois en mouvement, est très décidée et coriace. On me transporte en ambulance à l'hôpital militaire de Belfort. Elle suit dans un taxi. Montbéliard, Belfort, voilà au moins deux villes où je ne mettrai plus jamais les pieds. Maintenant, c'est la guerre d'usure. J'ai deux objets fétiches, une écorce d'orange, dont j'ai déjà parlé ici, que je vais respirer en ouvrant la lucarne des chiottes et des lames de rasoir, que j'ai dissimulées dans un ourlet de mon pyjama. J'ai bien l'intention de m'en servir si ça dure. En même temps, je cesse de parler et garde le regard obstinément fixé sur le sol. J'ai une très bonne connaissance des sols. Ce comportement finit par intriguer dans 6 cas. Avant de poursuivre, un tuyau à qui voudra s'en servir, un de ces trucs qu'on se refile à mi-voix dans les couloirs, pour perturber un électroencéphalogramme, serrer et faire grincer légèrement les dents. Il paraît que ça marche. Un type me dit ça dans la banlieue de Paris pendant que je subis des expériences test dans une cave au sujet de mon âge. Tenez, respirez ça. Odeur d'amandes amères, violente crise immédiate, étouffement, convulsion et retour titubant à l'air libre pour contempler Paris de haut, grotesque Rastignac transporté via le Val-de-Grâce en camionnette grillagée comique. Le texte qui raconte ça, etc. Je l'ai écrit. Tika, maintenant. C'est un capitaine plutôt brave con. Il m'interroge et je me tais. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il me demande alors de dessiner un homme et une femme nus. Oh, le gros malin, c'est trop beau. Adam et Ève, comme dans Cranach. Sans feuilles de vigne. Je m'y mets avec application, je dessine très mal et j'y parviens. Un homme et une femme parfaitement reconnaissables, puisque je m'attarde longuement sur les sexes et les poils, bien différenciés, bien visibles, seulement voilà, ils n'ont pas de bras. Le type me regarde incrédule, mais ses yeux brillent, il tient son cap. Il ne leur manque rien, je secoue négativement la tête. Et regarde bien, tu n'as rien oublié. Ce tutoiement risque de me faire réagir, mais du calme. Cette absence de bras est grosse, comme un immeuble, mais plus c'est gros, plus ça marche. Je compte un humain grâce de la fin de ça. Alors, bon, et puis Malraux, voilà, je finis par être libéré, on plonge vite vers une dépression sans retour, on est là au coup, bon. Quel beau mot, réforme, pas en religion, mais en armée. Pas en religion, mais en armée. Voilà, je suis donc réformé sur l'intervention de Malraux, qu'on a fini par joindre, sans pension pour terrain schizoïde aigu. Le schizoïde aigu, vous savez. J'enverrai un mot de remerciement à Malraux, qui me répond sur une carte de deuil par ces mots incroyables. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion, une fois au moins, de rendre l'univers moins bête. Quel style, comme tout a changé. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir eu l'occasion une fois au moins de rendre l'univers moins bête, mais donnez-nous des ministres comme ça. Quelle vulgarité. Voilà. Et je sors de cette ridicule petite saison à l'enfer, maigri de 20 kilos, etc.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce rapport... de celui qui est écrit au père, que Antoine avait signalé, Et tu parles de cette lecture de Maître Eckhart au moment de l'enterrement de ton père, page 550.